Alors c'est peut-être le moment où j'en dise un mot.
La problématisation. C'est pas le cours, c'est juste l'introduction. On va quand même se poser une question. C'est-à-dire, je vais essayer de réfléchir à la problématisation. Hein, on va réfléchir ensemble. Problématisation. Première question. Est-ce que les thèses ou les mémoires d'il y a 30 ans, 25, 30 ans, en France, on a fou comme. Est-ce qu'il y avait des problématiques? Est-ce qu'on employait le mot problématique? À votre avis. Je vous pose la question, vous devez avoir un petit détail. Non. Bon. Ça veut dire qu'on produisait des thèses, d'excellentes thèses, des mémoires, d'excellentes mémoires, dans lesquelles le mot problématique n'apparaissait pas du tout, si ce n'est comme épithète, hein. On va dire d'une situation qui allait problématique, oui, d'accord. Ce n'était pas le substantif, la problématique. Ah bon? Donc, ça veut dire qu'on a produit la recherche sans la notion de problématique. Tiens, c'est étrange. Et si je le dis pour l'infocom, on pourrait vérifier dans d'autres disciplines, c'était pareil. Ah bon? Donc la problématique, c'est pas si vieux. Première découverte. 20 ans, 30 ans, selon les villes, selon les enseignements. Alors qu'aujourd'hui, la problématique est indispensable. Question, est-ce que la problématique, ça produit la meilleure recherche? Ben, si avant on faisait des mémoires et des thèses sans problématique, j'ai tendance à répondre que la problématique n'est pas la garantie que la recherche sera meilleure. Ah bon? Alors pourquoi est-ce qu'on a institué cette question problématique? Pourquoi est-ce que, dans tous les cursus de Bac plus 4 et Bac plus 5, pourquoi est-ce qu'on demande aux étudiants, quelle que soit la discipline d'ailleurs, hein, aujourd'hui, de faire une problématique? On fait juste avant de répondre à la question une petite remarque. Le mot problématique qu'on utilise ici, c'est problématique dans le sens scientifique. Ce n'est pas la problématique telle que vous l'avez déjà côtoyée dans le monde littéraire. Vous devez vous rappeler de vos cours de littérature, en terminale ou en première, où les profs de français vous demandaient quelle est la problématique de l'auteur. Ou la problématique du roman, si c'est pas. Je sais que vous en avez fait, non? Vous avez mouliné ça, je vois, pense dans tous les sens, à toutes les sauces, oui. D'accord? Oui? Bien ça. Alors, je vous demande instamment de bien vouloir considérer que la problématique dont on parle dans ce cours, c'est la problématique scientifique. Ce n'est pas la problématique littéraire. Et pour que les choses soient plus claires, est-ce que la littérature, l'enseignement des lettres, est-ce que c'est une science? Oui ou non? Ben non. Bon, vous tout compris. Donc la problématique au sens littéraire n'est pas un outil scientifique, puisque l'apprentissage de la littérature n'est pas une science. Ça va? C'est bien clair. Parce que beaucoup trop d'étudiants ont du mal à séparer la problématique telle qu'ils l'ont pratiquée au lycée en analyse littéraire de la problématique telle qu'on va apprendre à la forger, à la pratiquer ici, dans une perspective scientifique. D'accord? Là, je vous demande de mettre à distance, non pas du tout de néantiser, non pas du tout d'oublier ce que vous avez appris de la problématique dans le monde littéraire, mais ça n'a rien à voir. C'est autre chose. On ne va pas en définir ici. En plus, chaque prof de lettres avait un peu sa perspective de la problématique. Hein. La preuve, c'est que quand un même roman est étudié par deux ou trois profs, il ne voit pas toujours la même problématique. Bon. Donc, c'est une perspective purement littéraire qui n'est pas scientifique. Je dirais qu'elle est ascientifique, au sens de affirmatif. Bien d'accord là-dessus? Alors, je reviens à ma question. Pourquoi est-ce qu'on a institué cette affaire de problématique scientifique? Pourquoi?
Parce qu'il faut savoir ce qu'on cherche. Enfin, ce qu'on va...
Ouais, et avant, on ne savait pas. Bon, mais c'est bien, vous essayez. Bravo, super.
Ça délimite le sujet.
Ouais, ça délimite le sujet, ouais. Les thèses avant, on a un sujet limité. Mais c'est bien, allez-y, essayez. Essayez. Soit à partir de ce que vous avez lu, entendu, ce que vous croyez vous-même. Bon. Pourquoi est-ce qu'au fond on a institué cette histoire problématique? J'ai une raison quand même. délimité, ouais, on faisait avant. Hein, enfin, tout ce que vous me dites là en ce moment, que vous ne me dites pas, je ne vois pas ce que ça a de fondamentalement différent. Quand on écrit une thèse, ben, on délimitait forcément tu gères la thèse, hein, bon, forcément, voilà, d'accord.
Pour trouver tous les axes de la recherche, les hypothèses.
Ouais. Ben, ça se faisait avant. Vous voyez, je soumets la problématique à une réflexion scientifique. Autrement dit, je produis la science en ce moment. Là. Je suis en train d'essayer de vous poser, de nous poser la question, mais pourquoi est-ce que ça s'est instauré et pourquoi ça a eu ce développement et ce succès? Et aujourd'hui, ce caractère incontournable. Sans la problématique, point de salut. Quand même, c'est fort, non? Alors, on va juste peut-être rappeler quelques éléments contextuels. C'est le moment de faire appel au contexte. Avant, un prof, je dis prof, hein, à l'université, peu importe le degré, la hiérarchie que je vous expliquais avec soin la semaine dernière, un prof, il avait combien d'étudiants qui faisaient des mémoires de niveau bac plus 4, plus 5 ou thèse? Je vais vous dire, 3, 4, 5. Aujourd'hui, le ratio n'est pas le même. Ça ne met pas tout petit peu la puce à l'oreille, ça? Avant, on avait du temps long, la disponibilité à consacrer à chacun des rares étudiants qui arrivaient jusqu'au niveau bac plus 4 ou 5. Depuis 20 ans, 30 ans, massification de l'enseignement supérieur, tout ce que vous voulez, ouverture des filières, etc., etc. Enfin, ça, c'est toute la sociologie de l'éducation et l'enseignement supérieur en particulier. Bon, donc, effectifs plus nombreux, nettement plus nombreux. Soyons un peu pratiques. Ça y est, vous commencez à avoir le raisonnement. Je vais mettre une hypothèse assez amusante, hein, je vais dire ça comme ça, une simple idée, au fond. Ça serait drôlement bien qu'on ait un outil qui permettrait de savoir à l'avance si un sujet que vous avez retenu, il est digne d'intérêt et si vous allez bien le traiter. Ça serait bien qu'on ait une recette, une méthode, un outil, quelque chose, un truc qui nous permettrait à nous, profs, évaluateurs, de savoir si ce que vous allez faire mènera quelque part. Vous commencez à comprendre? Vous avez encore quelques frissons là, non? Parce que là, je vous révèle un truc que peu de gens savent. On le reformule maintenant que vous commencez à vous dire? Ben, la problématique, au fond, c'était inventé pour pouvoir évaluer rapidement, à l'avance, la quoi ? C'est-à-dire la pertinence d'une recherche. Je répète, la problématique a été inventée pour pouvoir évaluer à l'avance la pertinence d'une recherche. Ça va ? De la problématique, j'ai fait un champ de ruines. Et là, je suis tout à fait cartésien, c'est-à-dire que je commence par... Vous ne parlez pas comme ça, Descartes, hein. Je commence par tout désigner, tout à plat, je fais tout exploser avant de reconstruire. Et de fait, la problématique, dans beaucoup de formations, ça sert à quoi? Ça sert à dire oui, bah ça marche, ou ça, ça va pas. Et il n'y a pas que nous en infocom. En biologie, nos amis biologistes, dans leur cursus de master, ont fait faire des problématiques aux étudiants. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire une recherche en biologie, il faut du temps, il faut de l'argent souvent, il faut un certain nombre de choses à acheter. Il faut faire des manips en biologie. Et bien, à l'avance, on voit si elle a des chances de conduire quelque part. Si elle a des chances, vous avez les crédits pour le faire. On ne sait pas ce que ça va donner, hein, mais on se dit ça a des chances de. Si on voit sur la problématique que ça n'a aucune chance de donner quoi que ce soit, on dit bah non, vous faites autre chose. Vous commencez à comprendre le truc. Donc la problématique, c'est cet outil qui permet d'évaluer rapidement la pertinence de votre recherche avant même que vous l'ayez commencé. Et bien voilà, grande révélation que vous avez ce matin, qui doit quand même un petit peu vous surprendre, et qui va bien montrer la façon dont on va nous reconstruire et le souci. tout chapitre sur la problématisation, hein, puisque j'en suis toujours là. On va reconstruire, après que ce matin j'ai tout démoli, on reconstruira la problématique. Et on essaiera de voir comment est-ce que, d'abord on la construit, comment est-ce que, ça c'est le plus dur, comment est-ce qu'on peut l'améliorer et comment est-ce qu'on peut la rendre pertinente ou adéquate par rapport à une situation donnée. Ça va être ça l'enjeu, ça va être d'apprendre à construire une problématique. Ça sera le cœur du cours. Et je peux vous dire que c'est cette question qui m'a motivé pour faire ce bouquin. Je peux vous donner le point de départ de ce bouquin, c'est assez drôle. Le point de départ, c'était il y a très longtemps, dans des jurys, enfin dans les jurys de thèse, mais après jury de thèse, dans les pots de la coupe de champagne à la main. Ça, c'est les bons jurys quand c'est du champagne, quand c'est les mauvais jurys, c'est de la roteuse. C'est de la mousse. Bon, donc, des collègues, nous étions au jury, imaginez la situation, nous sommes collègues, hein, voilà. Bon, bah dis donc, tu l'as bien étrié, notre candidat, là, pendant la soutenance, hein. Et je posais la question à mes collègues, mais alors, tu l'as beaucoup embêté sur sa problématique, mais au fond, là, pour toi, c'est quoi une problématique? Et là, vite sidéra. Quand on demande à des gens, c'est quoi une problématique, bah, réponse toujours floue, ambiguë. Partons sur des tas de considérations, reprenons un certain nombre de choses qui étaient vraies, isolément, mais qui n'étaient jamais une présentation complète. C'est ça le point de départ fini. Mais bon sang, on juge de la qualité de la problématique des étudiants, et là c'était des thésards, hein, on juge de la qualité de la problématique sans être capable de définir ceci. Et c'est ça qui m'a motivé pour dire, bon, bah, ok, Coco, il y a du boulot à faire, on va essayer de réfléchir à ce que c'est qu'une problématique. D'où le fait que nous verrons, je vous le dis en rafale, nous verrons une définition d'un niveau 1, définition de niveau 1, facile. Pour ceux à qui ça ne suffira pas, on verra une définition numéro 2, nettement plus difficile. Pour vous aider à concevoir les problématiques, on verra un outil génial qui s'appelle la grille de faisabilité. Je vous dis ça parce que vous pouvez déjà aller chercher si vous n'avez pas fait un cours. Hein. Je ne vois aucun inconvénient. Si vous allez chercher du truc avant, ça ne me dérange pas. Pourquoi c'est en libre accès? Sinon, je le mettrai pas en libre accès. Donc, vous pouvez découvrir cet outil formidable, normal, c'est moi qui l'ai fait. Génial, allez, allons-y, hein, carrément, tant qu'à faire. Qui s'appelle la grille de faisabilité d'une problématique. La grille de faisabilité. Ça, c'est fort. Grille de faisabilité numéro 1, 10 critères. Ça ne vous suffit pas? Pas de problème. Grille de faisabilité numéro 2, de deuxième niveau, 5 critères supplémentaires. Vous aurez 15 critères auxquels il faudra répondre pour savoir si la problématique a des chances d'en être une. Et si ça ne vous suffit toujours pas, on ne pourra aborder, ça dépend des années, un troisième niveau de définition. Je dirais que le troisième niveau de définition correspond plutôt aux thèses. Ce qui fait qu'on ne l'aborde pas nécessairement, mais dans le bouquin, je le traite, bien sûr. Troisième niveau, j'ai besoin de Karl Popper, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure pour ça. Ouf ! Et puis, quand on aura bien fait tout ça, on verra le lien entre problématique et hypothèse. Alors, tout de suite, un truc à régler. Certains mémoires de bonne qualité se contentent d'une problématique, pas d'hypothèse. C'est ceux qui peuvent monter jusqu'à 12 ou 14. Si vous voulez dépasser le 14, il est quasiment impossible de vous contenter d'une problématique. Seul, il faut généralement la compléter par des hypothèses. Et parfois par des sous-hypothèses. Alors là, ça devient grandiose. Ça, je vous donne tout de suite le fin du fin. C'est quand dans la problématique, il y a des mots qui sont en couleur. Vous voyez, une problématique, tic, 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 couleur. Et puis, des hypothèses qui reprennent le code couleur. C'est-à-dire que le mot couleur rouge, ça va être explicité par l'hypothèse numéro 1, qui était le. Celui qui est en bleu, il sera par la 3. Et ainsi de suite. Et là, il faudra surtout comprendre la relation entre hypothèse et problématique. Pour percevoir la chose, l'hypothèse, c'est la vue de détail. Vous focalisez sur le point de détail. La problématique, c'est le point de vue général. Donc, il faudra articuler le point de vue général avec le point de vue local. Là, c'est très fort. Hein. Et ça devient très compliqué. Ça sera le moment le plus délicat du cours. C'est celui le plus abstrait, où il faut raisonner de manière complètement abstraite. Bon, on aura ensuite la question des variables, dont j'ai beaucoup parlé, ça sera plus reposant. J'ai quelques exercices très amusants pour vous faire chercher les variables. Vous allez voir que vous allez souffrir pour les trouver, ces variables. Parce qu'on croit maîtriser un problème en ayant 3-4 variables, il y a beaucoup plus de variables que ça. Et votre boulot, c'est de trouver le maximum de variables, ça c'est complètement des cartes, de sélectionner parmi ces variables celles qui vous paraîtront les plus, alors, les plus quoi ? Les plus pertinentes, les plus adéquates, les plus faciles à observer ou à mesurer, tout ce que vous voulez. À chercher des causalités entre ces variables, ça vous donnera les fameuses hypothèses, et à combiner ces hypothèses, ça vous donnera un problème. Vous en voulez une autre petite question épistémologique pour montrer que c'est passionnant tout ça ? Une question que vous posez en ce moment ? Je suis sûr, une question épistémologique qui va vous faire trembler. Pas un truc qui fait trembler, puisque je vais rien dire. Hein. C'est-à-dire par quoi je commence ? Je commence par le général, le global ? Ou je commence par le local, le particulier ? Ça, c'est une belle question. Est-ce que je règle un problème en l'envisageant globalement ? Ça s'appelle la systémique. Ou est-ce que j'envisage le problème localement ? C'est cartésianisme. Donc, est-ce que mon positionnement épistémologique, là, c'est pas une question de ce que je dis tout à l'heure, les conditions de départ, etc. Là, c'est tout autre chose, c'est un autre débat épistémologique. Est-ce que je produis un meilleur résultat par une approche systémique globale ou par une approche locale cartésienne ? Qu'est-ce qui produit la meilleure recherche ? On va aller, bien sûr, voir cette question et on essaiera d'y répondre. Ça fait partie de votre choix, de vos choix épistémologiques. Et ça, il faudra vous déterminer pour savoir si vous abordez. Je répète, par l'angle systémique ou par l'angle purement cartésien, variable par variable. Je précise une petite chose. En systémique, on s'occupe toujours des variables. Il y a des gens qui parlent de systémique sans s'occuper des variables. Ils n'ont rien compris. Désolé de le dire comme ça. Ils n'ont rien compris à la systémique. La systémique, ça a été fait par qui ? On vous a parlé de systémique, d'ailleurs ? Oui ou non ? Non, bien sûr. Normal. Pour des raisons essentiellement idéologiques. Je m'en expliquerai. Ça peut pas pareil comme... C'est un petit peu comme celle que j'avais donnée pour autre chose. Donc, la systémique a été fondée après-guerre par un très grand scientifique qui était à la fois... Enfin, qui avait commencé par être physicien. Et après, il s'est fait biologiste. Il s'appelle Ludwig von... Quand on dit ça, vous me chantez... Non, c'est pas Beethoven. Bertha Lanfi. Encore un nom pour ce matin. Bertha Lanfi, c'est un nom à coucher dehors, je suis désolé, c'est comme ça. Bertha Lanfi, avec deux F et un Y à la fin. Ludwig von Bertha Lanfi. Pas fan, mais fan. Bertha Lanfi, c'est le fondateur de la systémique, de la théorie des systèmes, dont on aura énormément. Ensuite, nous aurons la question méthode, méthodologie, and so on. Hein, méthode, méthodologie, et ça, je le mets dans la conception. Quelle est la méthode que je vais utiliser ? Quelle est la différence entre méthode et méthodologie ? Hello. Méthodologie, c'est le logos de la méthode, donc c'est le discours de la méthode, donc c'est la science de la méthode. Mais très souvent, les étudiants utilisent le mot méthodologie comme le mot méthode, un peu comme on utilise technologie au lieu de technique. Ça fait mieux de dire technologie, hein. C'est plus... Waouh ! On va dire qu'un Airbus, c'est la technologie. La brosse à dents, c'est la technique. C'est pas du tout ça, la technologie, c'est normalement la science de la technique. Et la confusion est aujourd'hui tellement classique qu'on la relève même pas. On a tort. Donc il faudra concevoir sa bonne méthode ou sa bonne méthodologie, et en particulier savoir quels sont les outils en présence et comment on va les utiliser. Juste une petite remarque complètement manuelle. Il y a de très bons travailleurs manuels, je pense aux menuisiers, d'ébénistes et compagnie, qui se fabriquent eux-mêmes leurs outils. Vous le redis encore un coup ? Qui se fabriquent eux-mêmes leurs outils, ça veut dire qu'un mémoire, souvent, il faut se fabriquer ses outils. Il faut faut se fabriquer ces outils. C'est-à-dire qu'on ne va pas puiser dans le Leroy Merlin de l'outillage du mémoire, on va se fabriquer ces outils. Bref, ça fait marrer, t'as raison. On va se fabriquer les outils parce que ce seront ceux qui seront les plus adaptés aux hypothèses, aux variables et aux positionnements épistémologiques qu'on a choisis. Voilà, c'est le gros chapitre. Une fois qu'on a fait ça, c'est comme une montagne. Là, on a atteint le sommet de la montagne, on fait quelques photos, quelques vœux, on admire le paysage, et on se dit, bon, bah, maintenant, il faut encore descendre, avant que l'oral, je ne sais pas quoi, arrive. Hein. On a le quatrième chapitre, troisième, pardon, enfin, oui, un, deux, trois, le troisième chapitre, puisque je n'ai pas compté l'introduction comme chapitre, mais peu importe, la réalisation proprement dite. Bah, la réalisation, c'est quoi? Ça veut dire que là, il faudra qu'on fasse le tour de toutes les méthodes quantitatives. C'est le moment où je vous resserre tous les boulons sur le quanti. Par exemple, les questionnaires. Je vous donne quelques trucs tout bêtes et tout simples. Les marges d'erreur sur les questionnaires. Quand on fait un questionnaire avec 100 personnes questionnées, vous avez une petite idée, et un échantillon de plusieurs milliers, bien sûr. Vous avez une petite idée, parce que si c'est 100 personnes, si c'est un questionnaire sur la population de M1, pas la peine d'avoir 100, vous êtes d'accord. Donc par rapport à des populations qui sont en milliers, en dizaines de milliers, vous avez une petite idée comme ça de la marge d'erreur. Je vous la donne de manière à 15%. Un peu moins de 15, 13, quelques. Mais retenez 15. 15%. Autrement dit, tous les zinzins qui, dans un mémoire, disent que A et B étant séparés de 8%, j'en déduis que, rigolo, bah, c'est en dessous de la marge d'erreur, ton truc, c'est du pipeau total. Ciao, bonsoir. Une fois qu'on aura resserré quelques boulons sur le quantitatif, nous verrons, nous apprendrons du qualitatif. Et là, c'est le moment que les SIC devraient choisir pour montrer tout ce qu'elles ont pu inventer. Parce qu'il y a des trucs qu'en SIC on a inventé ou qu'on a repris et adapté. Et qui s'appellent quoi? Vous en connaissez forcément un, parce que je suppose que vous en abassinez avec. Je vous le dis comme les Belges. La participation observée. Les Belges ne disent pas comme nous, ils disent la participation observée. Voulez-vous me dire l'origine épistémologique de la participation observante? Qu'est-ce qu'on vous a bassiné dessus? L'origine épistémologique, 1927, un grand physicien allemand appelé Werner Heisenberg a énoncé ce qui s'est appelé le principe d'incertitude, que nous verrons. Et ce principe d'incertitude, 1927, a été d'abord appliqué bien sûr dans son univers, c'est-à-dire la physique, l'atome, tout ce que vous voulez, des trucs qui n'ont rien à voir avec nous. Et puis petit à petit, parce que il y a eu à l'époque des lecteurs pas plus bêtes que nous, hein, qui dans les années 30, et après il y a eu la guerre, ça a changé une chose, d'accord, mais après, déjà avant la guerre, hein, 27, bon, et surtout après la guerre, a donné à ce que les ethnologues, c'est après les ethnologues qui ont récupéré ça, prennent cette affaire de principe dit de Heisenberg, du nom du physicien, mais on dit aussi principe d'incertitude, je viens de le donner tout à l'heure, a été réutilisé pour inventer ce qu'on a appelé plus tard l'observation participante. Voilà, d'où ça vient. Vous saviez, bien sûr. Ouais, vous avez parlé de quelqu'un que je connais bien, hein. Yvon Hagen, que je connais très bien depuis très longtemps, mais bon, voilà, ok. Yvon Hagen, je le connais si bien que je peux le dire, donc en plus, je l'ai dit devant lui plusieurs fois dans des colloques où on s'est trouvé. Il n'a jamais prétendu avoir inventé quoi que ce soit. Ceux qui l'ont inventé, c'est les ethnologues d'avant la Seconde Guerre mondiale, et à partir des réflexions que leur a imposées, presque, enfin, qui se sont imposées à eux, de Heisenberg et de son fameux principe d'incertitude. Principe d'incertitude, nous le reverrons en détail, mais je vais dire ça comme ça. Je vous le dis d'une manière plus simple. Quand j'observe un phénomène, je le modifie. Je répète, quand j'observe un phénomène, mon observation le modifie. Le fait d'observer modifie. Italiens, dans les années 30, se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait se saisir de ce principe-là dans l'univers de l'ethnologie, etc., etc. Bien. Méthode qualitative, la participation observante, que je persiste à appeler comme ça pour m'amuser. Et puis, vous en avez d'autres qui sont moins connues, mais largement aussi puissantes. Je vous donnerai des exemples de participation observante qui sont très intéressants dans le domaine de la com. Mais d'autres qui s'appellent les profils types, qui viennent de la psychologie. Ça me permet de dire que en infocom, nous avons beaucoup trop tendance, et là, c'est ça, c'est des problèmes de pilotage de la recherche, à pencher du côté de la socio, et à chercher nos outils épistémologiques du côté de la sociologie. Ce qui est légitime pour partie et absurde pour une autre. On doit aussi aller voir qu'est-ce que font les psychologues. Il me semble que s'il y a des gens qui connaissent un petit peu la communication, quand même, c'est peut-être bien les psychologues, non? Bon, et nos amis psychologues ont inventé la notion formidable de profil type. Nous verrons ce que c'est, nous verrons la puissance de ce truc. Nos amis des sciences de la décision ont inventé les scénarios types. Nous verrons ce que c'est. Vous voyez, c'est ça les méthodes. Je ne vous les cite pas toutes, hein, parce que je ne vais pas vous faire le cours maintenant. C'est pour vous montrer la diversité, la variété du cours. Et cette année, je fais ma présentation un peu plus longue que d'habitude, parce que vous êtes le public que vous êtes, hein, dont on en a parlé la dernière fois. Très bien, ok, c'est comme ça. Bon, donc j'essaie de vous montrer... la perspective, la différence entre ce qu'on a pu vous dire auparavant et ce que nous allons faire nous-mêmes. Il restera l'épilogue, comme il y a une introduction, un prologue, hein, l'épilogue, c'est la production et la diffusion du mémoire. Vous verrez, alors, sur mon site, il y a deux gros polis. Le poli principal, c'est celui sur la conception du mémoire. Vous pouvez télécharger, il n'y a aucun problème, hein. Je vous ai dit que je n'ai pas mis à jour depuis un moment, parce que je préfère m'occuper d'édition du bouquin, j'ai autre chose à faire. Et j'ai un deuxième poli qui est la partie pratique. Et on y passera en cours, allez, une heure peut-être. Maintenant, on y passe une heure. Qui répondra à toutes vos questions pratiques, comment je présente le mémoire, comment je présente le titre, est-ce que je fais une table des matières ou un sommaire, est-ce que je fais un glossaire ou est-ce que je mets les notes en bas de page, dans quel nombre de lignes par page, le nombre de signes par page, toutes les questions pratiques, tout ce que vous avez voulu savoir sur le mémoire sans jamais vous avoir posé la question, comme voilà, bon, et ben vous l'avez dans ce poli. Ce qui fait qu'en cours, j'y passerai une heure, juste pour être sûr et certain que tout soit fait, parce qu'il ne faudra pas se pointer à la soutenance avec la mémoire qui ne soit pas nickel. C'est-à-dire à la perfection, hein, comment je présente la bibliographie, les références, l'usage de l'idem et l'ibidem, de l'opus citatum, enfin je suis très exigeant sur ces trucs-là. J'ai pris la peine de rédiger ce qui n'est pas très très intéressant, mais c'est écrit quand même, donc il faudra le suivre. D'accord ? Quand je dis l'organisation pratique, bah, ça sera toute la partie planning, etc. Alors, pour finir, peut-être une question que vous pouvez vous poser. Moi, je vous ai donné mon plan, là. Souvent, on demande aux étudiants le plan du mémoire. Je vais peut-être vous surprendre. Je ne demande jamais de plan de mémoire. Et quand vous me proposez un plan de votre mémoire, je regarde avec politesse. Mais vous comprenez bien, généralement, je m'en fous totalement. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que le plan d'un mémoire, ce sera toujours la même chose. Vous allez forcément mettre une introduction. Vous allez forcément faire une partie présentation de je ne sais pas quoi, puis une conclusion, non ? Et puis dedans, il y aura tout un tas d'éléments de contexte. Et alors, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous avez choisi ce sujet. Des questions bibliographiques annexes, ensuite la construction de la problématique, la construction de l'hypothèse, les choix méthodologiques, et après le processus de validation des hypothèses et la conclusion. Vous voyez ? Ça m'intéresse beaucoup plus que le plan, parce que le plan, jusqu'au dernier moment, on va le refaire. Ne confondez pas le plan et le planning. Il y a la notion de planning, et ça c'est votre calendrier perso, votre compte à rebours, votre rétro-planning, si vous voulez, enfin, tout ce que vous voulez, il y a tous les trucs pour gérer, quoi. Bon, ça c'est votre affaire. Mais le plan en lui-même ne m'intéresse que très très peu, parce que un plan, bah, forcément, vous avez parlé du contexte. On suit que vous allez faire l'histoire du concept qui est dans votre mémoire. Bah oui, alors, c'est vachement original un plan. Hein. C'est toujours pareil. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la partie itérative de tous les plans, c'est au contraire ce que vous apportez comme valeur ajoutée, et votre valeur ajoutée, bah, je viens de le dire. C'est le choix du sujet, plus la problématique, etc., etc. Voilà, donc production, diffusion, de même que le nombre d'exemplaires, enfin toutes ces questions-là. Et puis, il restera la conclusion, c'est la vie après le mémoire, au fond, à quoi ça vous a servi de faire ce mémoire ? Je boucle avec l'introduction, parce que c'est bon pour la vie, parce que quand vous êtes dans cette attitude d'esprit de chercher, vous allez garder ce développement des réseaux sémantiques dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vous permettra de toujours aborder n'importe quelle question avec l'aptitude à un objet variable, celle qui compte, comment ça s'organise tout ça, et puis bah, peut-être quelques points méthodologiques comme les profils, les scénarios types et le reste. Bon, voilà. Bah, j'ai un peu débordé sur la pause, mais c'est pas grave parce que je voulais vous présenter ça. Vous avez, je crois, l'ensemble complet. On va peut-être se faire une pause maintenant. À moins qu'il y ait quand même une question dessus, non ? Si vous avez par hasard une question, c'est le moment.